Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Damien Le Guay.
Jean-Luc Chrétien, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie à Paris 4 Sorbonne et nous vous avons reçu dans une émission précédente sur les deux livres donc, que vous avez fait paraître, l'un en 2009 et l'autre en 2011, donc Conscience et Roman 1 et 2. Conscience et Roman 1, donc avec comme sous-titre La conscience au grand jour, et Conscience et Roman 2, La conscience à mi-voix. Et donc, je voudrais avec vous, aujourd'hui, maintenant, dans cette émission, essayer d'entrer plus avant, non pas dans l'architecture globale de votre projet, et c'est ce que nous avons fait dans l'émission précédente, mais plus particulièrement dans la lecture que vous faites des œuvres, et d'une œuvre en particulier, à savoir Flaubert, et en particulier Madame Bovary. Donc vous consacrez plus de 100 pages dans le deuxième tome, Conscience et Roman 2, La conscience à mi-voix, sur Flaubert, et sur deux œuvres de Flaubert, Madame Bovary donc, et L'éducation sentimentale. Alors, focalisons-nous, si vous le voulez bien, sur la seule Madame Bovary, donc 1857. Et mot passant, et je voudrais que vous essayiez de mieux faire comprendre à nos auditeurs, en quoi est-ce qu'il y a eu un élément révolutionnaire, en quelque sorte, de Madame Bovary quand Madame Bovary a été publiée. Donc mot passant considère Madame Bovary comme une révolution dans les lettres. C'est, dit-il, la vie elle-même apparue. Proust, après, assimile donc la révolution littéraire de Flaubert à celle de Kant, je cite Proust, et la révolution de la vision de représentation du monde qui découle ou est exprimée par cette syntaxe est peut-être aussi grande que celle de Kant, déplaçant le centre de la connaissance du monde dans l'âme. Alors, quel est pour vous, pour les auteurs que vous avez lus, et dans l'histoire générale du roman moderne confronté à cette question de l'intériorité examinée par les romanciers, quelle est cette révolution inaugurée par Madame Bovary de Flaubert?
En effet, je cite un certain nombre de critiques et de commentateurs de l'époque qui ont tous souligné ce point. Alors évidemment, comme je le montre dans l'introduction de ce tome 2, ce n'est certainement pas Flaubert qui a inauguré le style indirect libre dont nous avons dit quelques mots la dernière fois, mais il a porté un usage proprement magistral. Alors le caractère énigmatique pour les contemporains de cette impression que les choses se racontent d'elles-mêmes, en quelque sorte. Enfin, le narrateur a disparu, nous voyons directement les procès, les événements dont il est question. Nous entrons directement, sans avoir à ouvrir une porte dans la conscience des personnages. Tient aussi en particulier à ce que, pas seulement, mais en particulier, à ce qui n'avait pas exactement les moyens syntaxiques de l'analyser, puisque la catégorie du style indirect libre n'a été dégagée que quelques dizaines d'années plus tard. Elle existait de fait, on le disait très bien, mais elle n'était pas thématisée comme telle. Mais il y a évidemment aussi la perfection avec laquelle Flaubert en use. Il apporte à son point d'incandescence. Et puis, d'autre part, peut-être tous nos auditeurs ne sont pas familiers de la philosophie, mais la comparaison que fait Proust, qui avait suivi des cours de philosophie sur Kant, il y a la révolution copernicienne en astronomie qui fait qu'on passe de la thèse géocentrique selon laquelle la Terre est au centre du monde à la thèse héliocentrique selon laquelle c'est le Soleil, n'est-ce pas? Et notre Terre tourne autour du Soleil. Kant avait fait une première analogie entre sa propre révolution philosophique avec l'idéalisme transcendantal, selon laquelle c'est précisément le monde qui tourne autour du sujet et non pas le sujet autour du monde. Et c'est cela que Proust considère comme une révolution flaubertienne. Alors, c'est dire que là, tout de suite, avec Flaubert, même s'il n'est pas le premier à s'engager dans cette voie, comme le montre mon livre, il le porte à une incandescence que Sir James, que j'analyse dans la deuxième partie de cet ouvrage, avec un développement encore plus grand, parce qu'il est plus mal connu en France, et pas étudié d'une façon aussi parfaite que Flaubert l'a pu l'être. J'ai eu peur en commençant d'écrire sur Flaubert, parce qu'on a écrit tellement de choses justes et fines et subtiles sur Flaubert, qu'on hésite à prendre sa propre plume. Alors, en tout cas, j'espère ne pas l'avoir déshonoré. Donc, ici, nous sommes d'emblée au cœur de la subjectivité. Et en effet, on a l'impression de vivre avec Emma et dans Emma Bovary en lisant le livre. Mais alors, ce qui est proprement remarquable...
Quelle est donc alors cette révolution ? Qu'a donc de remarquable ce roman intitulé « Madame Bovary » ?
C'est que précisément, cette subjectivité dans laquelle nous entrons n'a finalement rien d'intéressant ni de remarquable. Aussi bien Madame Bovary que l'éducation sentimentale sont finalement deux récits de lamentables échecs, deux vies ratées et deux vies qui n'ont pas de relief ni d'accomplissement particulier. C'est d'ailleurs une critique que James fera à Flaubert, et je l'expose en détail dans la deuxième partie du livre, c'est qu'il trouve que Flaubert a pris, avec Emma Bovary et Frédéric Moreau dans l'éducation sentimentale, comme dit James selon une image qui lui est chère, des vaisseaux, des vases, en quelque sorte, des vaisseaux de conscience trop étroits, trop limités, trop peu subtils, trop prosaïques, pour pouvoir être, selon James, une ouverture, presque un diaphragme, si j'ose dire, photographique, assez large pour le monde. Alors, ce qu'on peut répondre à la critique de James, c'est qu'en un sens, ceci fait partie du projet même de Flaubert, n'est-ce pas ? C'est à dessein qu'il a choisi des consciences aussi médiocres. Et c'est justement là que se voit la force et l'originalité flaubertienne de nous faire pénétrer dans des consciences qui n'ont rien de que d'ordinaire. Le contraste avec Balzac est saisissant, parce que dans Balzac, au fond, ou dans Dickens, si vous voulez, tout le monde est extraordinaire. Évidemment, on peut être extraordinaire en bien ou extraordinaire en mal, mais je veux dire que les méchants sont vraiment très méchants. Les avares sont avares jusqu'à une sorte de démesure. Les timides sont timides d'une façon énorme, etc., etc. Donc tout est extraordinaire, tout est hyperbolique, en quelque sorte, dans la vision qu'on peut avoir d'autres romanciers. Ici, nous avons des consciences extrêmement banales, prosaïques, ordinaires. Et si on considère comme intéressant cela seul qui sort de l'ordinaire, alors ce n'est pas du tout intéressant. Mais c'était ça le projet. C'est pas une sorte d'erreur dans le choix que Flaubert aurait fait de ses personnages principaux. C'est-à-dire que, comme l'a bien marqué Nathalie Sarraute à propos de Flaubert, ce qui est nouveau, c'est qu'on nous demande en quelque sorte d'entrer dans la fausse conscience comme telle. D'entrer non seulement dans une conscience extrêmement ordinaire et prosaïque, mais une conscience qui est totalement faussée, aliénée, déviée dans son rapport à la réalité qu'elle déforme complètement. Au lieu de la juger de l'extérieur, au lieu de rire d'elle ou de s'affliger sur elle, n'est-ce pas, le fait que quelqu'un se trompe complètement est à la fois un ressort comique, n'est-ce pas, on se moque de gens qui croient que leur femme est fidèle alors qu'elle les trompe depuis toujours, mais on peut aussi pleurer de l'erreur tragique, n'est-ce pas, l'erreur d'Édipe, l'ignorance d'Édipe sur la situation où il est vraiment, il cherche un coupable dont il ne sait pas que c'est lui, est tout à fait tragique. Mais ici, ce n'est pas le cas, vous voyez, nous entrons comme dans une sorte de descente aux enfers qui est faite de telle manière que nous ne prenons même pas conscience que c'est une descente aux enfers dans la fausse conscience.
Mais cette Madame Bovary dont vous parlez, elle est fausse. Flaubert semble vouloir nous faire aimer cette fausseté même dans le moindre détail ressenti.
Alors évidemment, peut-être choquerai-je certains amoureux d'Emma en disant cela, parce que la présentation que fait Flaubert est évidemment tout à fait séductrice, n'est-ce pas ? Il nous fait voir cette fausseté de la conscience, dans les termes de cette fausseté même. L'illusion sur le monde, dans les termes même de l'illusion. Et il le fait dans un style si admirable, et qui, dans Madame Bovary, est proprement parfait, n'est-ce pas ? Il n'y a pas un mot, pas une virgule à changer, que nous finissons, volens nolens, par nous prendre de sympathie pour la conscience ici en question. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait remarquable. Et ce que fût-ce pour lui l'en critiquer, j'ai lu comme ça des auteurs du 19e siècle, n'est-ce pas, ou des critiques littéraires alors éminents, qui le prenaient de très haut avec Flaubert, la primauté du sentir. C'est-à-dire que prend une importance la plus petite sensation de la vie la plus quotidienne. Alors là, c'est un chemin dans lequel, précisément, s'engagera ensuite toute la littérature du XXe siècle, dont Flaubert est le héros, avec A.U., n'est-ce pas, était celui qui l'annonce et l'inaugure. Car ça signifie que l'intérêt que présente pour nous un roman n'est pas l'intérêt de l'évasion vis-à-vis de notre vie réelle, d'une littérature d'évasion ou escapism, comme on dit en anglais pour dire la même chose, on s'échappe de la vie réelle, mais que précisément la littérature nous plonge dans le réel. Et dans ce réel, à la fois intense pour chacun d'entre nous, mais comme méconnu, oublié, inaperçu, qui est celui de la moindre sensation positive ou négative de la vie quotidienne. C'est là que Flaubert est proprement remarquable, dans ce qui est l'analyse de la fausseté de la conscience, des illusions que nous nous faisons sur autrui et sur nous-mêmes, sans qu'il s'agisse évidemment ici, ce qui serait absurde, de porter de jugement, mais on peut considérer que Henry James est allé sur ce plan beaucoup plus loin dans l'analyse, disons, de l'ambiguïté du clair-obscur de la conscience, à la fois à cause de l'immensité de son œuvre, roman, et de sa subtilité, proprement peu commune. Tandis que sur cette question du sentir, des sensations, n'est-ce pas, et du grain des choses de la vie quotidienne, telle qu'elle se donne à nous dans le sentir, alors là, je pense qu'il faudra attendre Proust pour qu'on puisse précisément retrouver cette dimension et la porter à un développement plus grand.
Donc ce sens du détail chez Flaubert n'a-t-il pas été reproché justement à Flaubert ? S'agit-il de détails insignifiants ou, au contraire, de signification dans le détail et par le détail ?
Tous ces détails font sens, parce que dans la vie de ma conscience, le plus petit détail peut avoir des conséquences et signifie ce que je suis comme tel, n'est-ce pas ? Vous savez, je ne sais pas, c'est un détail idiot comme le fait de frémir à certains bruits, comme une craie qui crisse sur le tableau, n'est-ce pas ? Ça n'a aucune importance. Mais la manière dont j'y réagis détermine déjà ma personnalité, un rapport au monde. C'est plus féminin que masculin, par exemple, comme le sait tout professeur qui a involontairement fait crisser la craie. Donc il n'y a plus de détails. Parce que s'il s'agit non pas simplement d'analyser le cours des choses, mais de montrer la vie psychique, alors dans ces détails, la vie psychique se révèle elle-même. Tout fait sens, tout est signifiant. Et la profusion de la réalité n'est pas du tout perdue par le fait que ça soit un roman centré sur la conscience, au contraire, parce qu'elle est montrée précisément telle qu'elle nous apparaît. Alors ça, c'est fondamental.
Alors il y a, donc vous en parlez, vous le dites, il y a à la fois effectivement cette banalité, mais aussi il y a dans l'intériorité d'Emma Bovary une forme de médiocrité, d'illusion. Vous en parliez à l'instant. Et les illusions, c'est aussi tous les rêves qu'elle se fait elle-même, tous les fantasmes qui deviennent ou deviendront les deux adultères qu'elle aura. Donc la question pour Emma Bovary est la suivante, c'est est-ce que vous ne pensez pas que si Flaubert était Madame Bovary, Madame Bovary, elle ne voulait pas être Madame Bovary et cherchait toujours à échapper à elle-même et à être autre qu'elle n'était réellement dans sa vie concrète. Donc est-ce qu'il n'y a pas là, dans ce désir d'être autre qu'elle-même, d'être toujours ailleurs, Charles étant celui d'ici et son rêve étant d'être ailleurs, dans l'au-delà, quelque chose qui nous dit des éléments de cette révolution dont on parlait pour Madame Bovary. Cette banalité et cette médiocrité et cette illusion d'être toujours ailleurs, ou de vouloir toujours être ailleurs.
C'est-à-dire que c'est précisément le rêve qui fait la médiocrité. Parce que vous ne supportez plus votre situation réelle, vous la voyez comme ennuyeuse, détestable, insupportable, au nom d'un ailleurs qui précisément peut être de toutes sortes, hein, pas seulement ceux de Madame Bovary, au lieu d'un ailleurs imaginaire. Alors, c'est-à-dire que vous ne cherchez pas du tout à transformer votre situation réelle, vous cherchez simplement à y échapper, à la fuir. Avec cette superstition de Madame Bovary, qui est d'ailleurs généralement partagée, puisqu'elle est celle qui fonde une bonne part de notre économie avec le tourisme, l'idée que si j'étais ailleurs, je ne me sentirais pas pareil. Je ne serais plus tout à fait le même homme. Les problèmes que j'aurais avec ma femme s'arrangeraient si c'était ailleurs, etc., etc. Donc, au nom d'un ailleurs purement fictif, vous dévaluez et méprisez l'ici et le maintenant, que vous ne transformez pas et que vous ne cherchez qu'à fuir, et vous ne vous demandez pas non plus si cet ennui que vous éprouvez de votre vie ne tient pas à vous-même et non pas à votre environnement, n'est-ce pas ? Après tout, partout on peut voir un arbre. Et il peut y avoir dans un arbre, pour un poète, un émerveillement sans fin. On n'est pas forcé d'aller à l'autre bout du monde pour en voir. Mais évidemment, il y a aussi la question de l'espace. Et le roman moderne décrit admirablement, non pas simplement les espaces réels, mais tous les rapports possibles que nous avons à l'espace. Il y a une véritable, sans prendre le terme au sens mathématique strict, mais il y a une véritable topologie dans le roman moderne, à la fois une topologie extérieure, un discours sur les lieux, leurs différences, leur nature, etc., et une topologie intérieure, la description des espaces intérieurs, qui est tout à fait remarquable et dont on ne trouve pas d'équivalent dans le roman plus ancien. Et alors je décris ces espaces intérieurs, le lecteur pourra d'ailleurs trouver justement des analyses en quelque sorte qui s'éclairent mutuellement entre Flaubert, où je rappelle que je parle aussi de l'éducation sentimentale,
absolument, mais...
même si votre amour pour Emma, que nous avons tous un peu eu, vous fait ne parler que d'elle. Donc je fais des comparaisons aussi avec James, qui décrit aussi des espaces intérieurs, où il y a déjà presque une sorte de topic, au sens de Freud, par exemple, un personnage de James jette toutes les pensées, les souvenirs dont elle ne veut plus, ou qui lui font peur, ou qui la contrarie, dans une sorte de débarras intérieur, un débarras dont il est dit qu'elle le ferme à clé. Mais pour autant, elle peut y retourner, et pour autant, dit-elle, tout ce qu'elle jette dans ce débarras de ses pensées et de ses soucis, parce que ça l'accable pour l'instant, prend dans ce débarras aussi une sorte d'ordre, n'est-ce pas ? Les choses qu'elle jette là-dedans ne s'empilent pas n'importe comment, prennent une sorte de sens, et donc quand elle reviendra plus tard, ça aura aussi évolué, n'est-ce pas ? Un peu comme un problème que vous n'arrivez pas à résoudre le soir, vous n'y pensez plus, vous dormez, et le matin il est résolu. Ça se transforme en nous sans nous, en quelque sorte. Alors là, c'est aussi un exemple de ces espaces intérieurs que le romancier nous décrit, et qui sont tout à fait profonds par leur sens et dignes de leçons. Pour revenir à l'objet précis de votre question, j'analyse souvent les rapports entre le proche et le lointain. La coupure radicale que fait Emma Bovary entre le proche et le lointain est précisément son erreur fatale. Parce que proche et lointain se déterminent mutuellement. Si mon espace proche n'est pas gros déjà des lointains et complètement séparé d'eux, alors il est parfaitement, ou bien il est obsidional, enfin comme une prison, comme un cachot, ce qui peut être le cas réellement, bon, ou bien il est tout à fait irréel. Mais ces lointains, les lointains eux-mêmes, doivent avoir un lien avec le proche. Ce qui me conduit du proche au lointain, c'est une marche, une ascension, une descente, tout ce que vous voudrez, une démarche réelle dans l'espace réel, et non pas comme si c'était des zones en elles-mêmes incommunicables et essentiellement différentes de l'espace, voyez ? Mais j'analyse aussi le proche et le lointain dans James. Ce qui est intéressant, c'est de voir des modalités différentes et qui n'ont rien d'abstrait, puisqu'on les lie précisément aux situations des personnages.
Dernier élément, pour en rester sur Emma Bovary, vous dites effectivement qu'il y a, entre Victor Hugo, que vous avez étudié dans le premier tome, et puis Flaubert, un changement quant à la conscience humaine. Pour Victor Hugo, dites-vous, il y a quelque chose, une forme d'abîme dans la conscience humaine qui est joyeux, qu'il importe de découvrir. Et pour Flaubert, donc, qui en cela est pascalien, enfin, le cœur de l'homme, celui d'Emma Bovary en particulier, il est creux et plein d'ordures. Donc, est-ce que ce changement-là n'est-il pas radical quant à l'idée que Flaubert se fait du fond du cœur humain et n'introduit-il pas une forme de pessimisme foncier sur la nature humaine en elle-même qui ne serait ni joyeuse, ni sauvée, ni heureuse, ni ouverte sur des félicités éternelles, mais enfermée dans cette fausseté, ce creux, ces ordures, ce mal qui nous habiterait au fond de nous-mêmes.
Oui, certes, alors évidemment, c'est pourquoi je cite dans mes analyses sur Flaubert des expressions, disons, d'origine augustinienne pour décrire l'homme déchu. Schober ne partage pas la foi de saint Augustin, mais son diagnostic sur l'homme est tout aussi sévère. C'est comme une sorte de janséniste sans la grâce, en quelque sorte. Et alors, la rupture avec Hugo est évidemment tout à fait décisive, mais la rupture avec Hugo, ce qu'il dit sur les Misérables, dont j'ai chanté les louanges dans le premier volume, et d'autres ouvrages de Hugo dans sa correspondance, est tout à fait critique. C'est une rupture avec quelque chose de lui-même, n'est-ce pas, comme tout le monde l'a dit. La rupture de Flaubert avec le romantisme est extrêmement violente, mais la violence de telle rupture, c'est toujours la rupture avec quelque chose de soi, n'est-ce pas, que vous voyez dans beaucoup de pages du jeune Flaubert. C'est ce qui lui donne aussi cette radicalité, en quelque sorte. Mais évidemment, le projet, tout du point de vue qui me concerne, qui n'est pas de juger leur conception, mais d'étudier ce qu'ils apportent, c'est-à-dire que là, effectivement, il y a un renversement du tout au tout entre le projet hugolien de montrer que dans la conscience de n'importe quel homme, Monsieur Tout-le-Monde, en quelque sorte, et qui, en l'occurrence, c'est le Jean Valjean des Misérables, il y a l'objet d'une épopée de la conscience humaine, car chacun recèle en lui, précisément, des dimensions qui vont jusqu'à l'infini. Et après cette contemplation, pour reprendre un mot hugolien, de l'infini qu'il y a ou qu'il peut y avoir en chacun d'entre nous, même si parfois nous le méconnaissons, il y a effectivement une sorte de, excusez-moi l'expression, mais de gueule de bois. Après la griserie romantique dans Flaubert, on se réveille tout chose en découvrant l'horrible finitude, n'est-ce pas, sans dépassement, sans recours, sans ressources, qui est quand même un thème essentiel de Flaubert, qui est aussi avec celui de l'incommunicabilité des consciences entre elles. On entre en chacune dans Flaubert pour nous montrer à quel point, précisément, elle ne sort pas d'elle-même, même en croyant sortir. Elle n'arrive jamais à être en harmonie ou à l'unisson avec celle d'autrui. Dans Flaubert, quand on se croit vraiment d'accord et à l'unisson, c'est qu'il y a un malentendu total, ou bien une tromperie, ou bien un malentendu complet, une maldonne complète entre les deux personnages en question. Donc c'est évidemment un changement du tout au tout, mais qui fait partie aussi du nihilisme tout à fait net de Flaubert.
Mais écoutez, merci beaucoup donc pour cet éclairage que vous nous apportez effectivement sur Flaubert. Je renvoie donc nos auditeurs tout à la fois donc à l'entretien que nous avons eu préalablement sur l'architecture générale et le sens du projet qui est le vôtre dans Conscience et Romans 1 de 2009 et Conscience et Romans 2 de 2011, qui sont parus tous les deux donc aux éditions de Minuit, et en vous remerciant d'être venu jusqu'à nous pour nous éclairer sur ce moment flaubertien et sur ce que Flaubert a pu apporter dans cette grande odyssée que vous décrivez de cette conscience éclairée par le roman, ou le roman qui prétend effectivement aller jusqu'au bout de la clarté dans la conscience des individus. Jean-Louis Chrétien, merci.
C'est moi qui vous remercie.